Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
Bonsoir, bienvenue dans Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h depuis le studio 153 de la Maison de la Radio. Au sommaire ce soir de Soft Power, une émission qui sera entièrement consacrée et dédiée à la consommation et aux problèmes que nous rencontrons tous sur Internet avec notamment les opérateurs de téléphonie mobile ou encore les fournisseurs d'accès à Internet. La vente forcée, les clauses parfois en marge de la légalité des contrats que l'on signe sur Internet et surtout quand on les signe d'un simple clic, les assurances bidons entre guillemets et les services après-vente aux abonnés absents, nous allons parler de tous ces abus petits et grands qui embarrassent, perturbent, énervent les consommateurs, c'est-à-dire vous, moi et nos chroniqueurs ce soir. J'ai nommé Léa Lejeune de Challenge, bonsoir Léa.
Bonsoir.
Emmanuel Paquette de L'Express, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Et puis deux journalistes donc qui seront accompagnés par Maxime Chipoy, spécialiste des questions de consommation, ancien responsable des études à l'UFC Que Choisir. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
J'ai divisé cette émission en trois parties. Nous commencerons par évoquer la question des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de téléphonie mobile ainsi que des achats en ligne et des abonnements sur Internet. Dans une deuxième partie, on traitera de divers sujets liés à la culture, aux offres Canal+, Netflix ou les cartes illimitées de cinéma, mais aussi des assurances en ligne, des frais bancaires et des services après-vente. Enfin, nous parlerons dans une troisième partie de cette émission, des micro-paiements sur Internet, des spam et peut-être plus positivement pour finir des moyens que nous avons pour nous défendre, que ce soit grâce aux services qui luttent contre le démarchage téléphonique ou grâce aux class action, ce qu'on appelle en français les actions de groupe. On écoutera au cours de cette émission Clippings et Justice, tout ça dans Soft Power jusqu'à 20h. Cette émission est exceptionnellement enregistrée ce soir. Elle est réalisée par Lionel Quentin avec en régie Bruno Gagnère Fontanille. Elle a été préparée par David Lavaux. Et bien sûr, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, au mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et bien évidemment sur France Culture. Pour commencer cette émission, comme chaque semaine, je retiens dans l'actualité un événement, une personne, un sujet qui m'a marqué et souhaite partager avec vous cet enthousiasme. Et aujourd'hui, un peu naturellement, de manière un peu décalée, j'ai envie d'adresser ce coup de chapeau, et ce n'est pas si fréquent, à une commissaire européenne. Elle a inspiré la série Borgen, elle a été ministre de l'économie au Danemark et elle s'attaque désormais aux géants du net américain en tant que commissaire européenne chargée de la concurrence. Son nom, Margrethe Vestager. Tout au long de cette émission, nous allons parler des régulations, évidemment insuffisantes en matière de consommation, et souvent Bruxelles sera dans notre collimateur, j'imagine, peut-être à juste titre, mais s'il y en a une qui se bat régulièrement pour tenter de réguler l'économie, pour tenter de faire plier Google ou Apple, ou du moins leur faire tout simplement payer leurs impôts, eh bien c'est bien elle, la commissaire européenne Margrethe Vestager. Nous l'avions longuement interviewée pour France Culture il y a un peu plus d'un an, une émission d'ailleurs que vous pouvez réécouter en podcast sur le site franceculture.fr, podcast Soft Power. On l'avait donc reçu et je voulais en début d'émission rappeler son action. Margrethe Vestager, la patronne de l'antitrust à Bruxelles, que je vous propose d'écouter, c'était dans Soft Power le 3 janvier dernier.
Well, my job is to give people a fair chance.
Mon métier est d'offrir aux individus une opportunité juste, équitable. Si nous atteignons notre objectif, alors peut-être que les Européens se sentiront dans une société plus équitable, plus juste, qui leur ouvre les portes.
I think the important thing is that we live our lives, we pursue our dreams.
À mon sens, il est très important de pouvoir vivre sa vie et d'accomplir ses rêves dans des sociétés qui ont des économies qui sont démocratiquement réglementées. C'est important. Ce n'est pas la loi de la jungle, mais une société contrôlée par un État. qui offre une certaine souplesse, mais qui en même temps contrôle le marché. Et pour moi, c'est très important parce que si les choses sont laissées en toute liberté, eh bien, on peut aboutir à des situations qui ne sont pas souhaitables, comme des monopoles, et où les plus forts prennent ce qu'ils veulent, et tout un chacun ne peut pas avoir une part raisonnable de l'ensemble ou une chance de pouvoir réussir.
Soft Power jusqu'à 20h, émission consacrée à la consommation ce soir. Et trop souvent aujourd'hui, la vie des Français, je l'ai dit, est compliquée, gênée, parfois entravée par toute une série de petits problèmes, petits entre guillemets. Ces petits tracas quotidiens nous mettent de mauvaise humeur, nous gênent financièrement et parfois ils détruisent même la vie de certains ménages, notamment les ménages les plus pauvres. Toutes ces petites difficultés que font subir aux Français les opérateurs de téléphonie mobile ou les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi les banques, les assurances, ne sont pas forcément simple à analyser ni d'ailleurs à corriger. Les Français sont désarmés face à l'opacité des offres, des clauses, des tarifs, des conditions qui figurent souvent en tout petit dans des contrats illisibles de 25 pages, parfois en anglais, que l'on doit signer d'un simple clic. C'est de tous ces abus que nous parlons ce soir dans Soft Power. On pourrait en parler comme de micro-politique, ou comme le disait Bill Clinton, le président américain, des idées de petit calibre qui permettent de redonner du pouvoir aux consommateurs. Pour commencer, en première partie de cette émission, nous allons nous intéresser dans Soft Power aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs d'accès à Internet. Emmanuel Paquette, c'est à
vous. Oui, alors l'Association française des utilisateurs des télécoms réalise chaque année un rapport annuel dans lequel l'association met en perspective les plaintes des consommateurs à différents niveaux. Donc ça peut être dans l'Internet fixe, ça peut être dans l'Internet mobile. Et cette année, donc en tout cas pour l'année 2015, on a vu une progression assez forte des plaintes, notamment sur l'accès à Internet, qui sont en moyenne de 44% de la totalité des plaintes qui ont été enregistrées. Dans ces plaintes de l'accès à Internet, il y a plusieurs points qui sortent. La première, c'est la qualité de service. C'est l'interruption momentanée ou un peu plus longue de l'accès à Internet des utilisateurs. Donc de fortes plaintes de ce point de vue-là. Et c'est une dégradation qui est assez récente. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il y avait plutôt une amélioration de l'accès à Internet fixe dans les foyers. Donc on voit un petit changement dans les politiques des opérateurs de télécommunications. L'autre grand marqueur de ce rapport, ce sont les ventes dissimulées, dont les plaintes augmentent de 64%. Alors ce qu'on entend par ventes dissimulées, ce sont des services cachés dont le consommateur n'a même pas idée et
qui lui sont facturés
à l'intérieur de son forfait sans qu'il ait donné son consentement. Alors là, aujourd'hui, ça peut être des offres de télévision, ça peut être des offres de télévision de rattrapage ou de SVOD, de VADA, de vidéo à la demande par abonnement, pour parler français. Donc ça, c'est des services aujourd'hui qui sont intégrés dans des forfaits sans qu'on ait nécessairement demandé à les avoir ou à les obtenir. Dans le domaine du mobile, il y a vraiment un saut sur ce qu'on appelle les problèmes de portabilité. Là, c'est une 110% de progression des plaintes entre 2014 et 2015. Alors la portabilité du numéro, c'est quand vous désirez changer d'opérateur tout en conservant votre numéro de téléphone. Vous devez faire une demande auprès de votre nouvel opérateur pour qu'il y ait une portabilité de ce numéro. Et de temps en temps, ça peut prendre un peu de temps et ça peut être un petit peu complexe. Et de ce point de vue-là, les consommateurs ne sont pas extrêmement contents. Autre point, sur le mobile, les ventes dissimulées qui reviennent aussi au même type d'offres sur les ventes dissimulées sur les offres fixes. Donc là, pareil, on met un peu... Alors c'est ce qu'un opérateur, à un moment donné, appelait du couscous-boulette, c'est-à-dire que on vous sert dans un plat plein de choses que vous n'avez pas nécessairement demandé. Vous trouvez un peu des boulettes d'un côté, des pois chiches de l'autre, une merguez, et tout ça, vous ne l'aviez pas nécessairement demandé, mais il se trouve qu'on vous sert un plat complet sans que vous ayez fait un choix sur tel ou tel condiment ou tel aliment que vous vouliez avoir. Donc on voit aujourd'hui que ça repart à la hausse, ces systèmes de forfaits dans lesquels on vous met différentes choses pour essayer d'augmenter le prix de l'abonnement moyen.
En tout cas, couscous, boulette, on voit qu'ils ont de l'humour, ces opérateurs, à défaut d'être tout à fait dans la légalité. Léa Lejeune.
J'ai opéré différemment. J'ai fait un petit sondage autour de moi en voyant les problèmes que les gens retrouvaient régulièrement avec leurs opérateurs mobiles d'accès à Internet. Le premier, c'est des accusations qu'avait subies SFR il y a quelques années. et qui apparemment se font encore de temps en temps. C'est vous recevez un appel d'un conseiller SFR qui vous conseille de s'abonner chez vous et qui vous raconte tous les intérêts de l'offre qui est possible. Et en fait, vous êtes emballé, vous donnez votre accord oral et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous vous êtes directement abonné. Alors, cette manière de faire est autorisée, elle est légale, mais elle doit être faite dans certaines conditions, qui sont notamment des conditions qu'on retrouve dans la loi Hamon sur la consommation. Et on doit notamment vous prévenir de tout ça, vous prévenir de toutes les conditions d'abonnement et des conditions de rétractation. J'ai remarqué aussi un bon côté de la loi Hamon qui s'est transformé en mauvais côté. Là, c'est chez Orange.
Ça, c'est la question des effets pervers.
Les effets pervers, tout à fait. Alors, Orange avait été un peu taquiné par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, parce qu'ils étaient trop longs dans leur délai de fermeture des lignes d'accès à Internet et des lignes téléphoniques. Donc finalement, ils se sont mis au pas et ils ont respecté le délai d'annulation de la ligne, qui est maintenant de 7 jours. Et il se trouve qu'autour de moi, plusieurs personnes se sont désabonnées, n'ont pas le temps de se réabonner chez un nouvel opérateur et se sont retrouvées sans accès à Internet pendant plusieurs jours. Je pense qu'il faut y faire attention. Et le troisième problème que j'ai découvert, c'est plus des questions de changement du contrat passé avec l'opérateur. Cette fois, c'est chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom a changé tous ses forfaits l'an dernier. Et au milieu, vous pouviez recevoir un petit mail qui disait « Maintenant, à partir de maintenant, les conditions d'accès à Internet changent. Dès que vous dépassez votre enveloppe, vous êtes surfacturé. » Et non pas tel que c'était jusqu'à présent. Finalement, le service ralentit, mais vous n'êtes pas surfacturé et tout ça va tout doucement. Et c'est vrai que si vous ne faites pas attention à ça, si vous ne cochez pas la nouvelle croix, vous êtes coincé dans ce forfait-là. Et je pense qu'il faut que tout le monde soit au courant de ces petites choses, qu'en fait, on peut encore changer les conditions de votre contrat après la signature.
En tout cas, on peut parler de la créativité, l'hyper-créativité des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès à Internet pour multiplier ces offres. Parfois, juste, on peut se réabonner avec une offre qui vous permet d'avoir des SMS gratuits ou quelque chose, mais sans le savoir, vous vous réabonnez pour une année supplémentaire, ce genre de choses arrivent. Et puis, on admire aussi chez Orange les nouveaux forfaits lancés très récemment qui permettent une gratuité en Europe pour éviter les frais d'itinérance. C'est une manière de tout simplement demander aux consommateurs de signer de nouvelles offres, sachant que les frais d'itinérance seront fortement diminués ou même supprimés par l'Union européenne d'ici quelques mois. Donc on voit la perversité quand même parfois des opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi des fournisseurs d'accès à Internet. Maxime Chipoy, vous êtes spécialiste des questions de consommation, ancien responsable des études à l'UFC Que Choisir. Et là, les box Internet, ça continue à être un problème.
Oui, alors effectivement, sur la téléphonie mobile, on a eu depuis pas mal de temps des fortes diminutions de tarifs et puis un marché qui bougeait beaucoup. C'est largement moins le cas pour les box.
C'est quoi sur la téléphonie mobile, pardon, mais les abonnements mobiles, c'est désormais combien sont avec des forfaits avec engagement et ouais. C'est quel prix en moyenne?
Alors aujourd'hui, on n'a plus qu'un tiers du marché qui est avec engagement et on est tombé à 16 euros de facture mensuelle. Compte plus de 30 euros précédemment. Donc on a aujourd'hui deux tiers du marché qui est totalement libéralisé où les gens, enfin sur lesquels les gens peuvent changer du jour au lendemain d'opérateur. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a sans doute plus de plaintes puisqu'il y a plus de volume. Donc en proportion, on a plus de gens qui sont mécontents puisque parfois ça se passe mal.
Alors sur les fournisseurs d'accès Internet, les fameuses box, là c'est toute une histoire.
Alors sur les box, oui, effectivement, c'est toujours un nid à litige et un nid à pratique qu'on peut presque qualifier de médiéval puisqu'on a toujours sur les box...
Médiéval
Oui, mais oui, parce que le numérique ça bouge très vite, donc on arrive rapidement au Moyen-Âge.
Les box médiévales, on se demande ce que c'est.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a encore des pratiques, par exemple, de frais de résiliation. Chez la plupart des opérateurs, vous devez payer 50 euros pour changer d'opérateur, ce qui est inenvisageable totalement sur le téléphone mobile. Et il y a de nombreux litiges aussi quand vous devez renvoyer le matériel à votre futur ancien opérateur. Et dès qu'il y a une pièce de la box qui est perdue, c'est 100 à 400 euros de pénalité pour le consommateur. Donc c'est déjà l'intérêt
si
du changement.
La notice de présentation, 100 euros.
Exactement. Ça limite l'intérêt de changer de box et c'est une manière de
verrouiller
le marché.
Et puis on ne sait pas trop comment se passe la charge de la preuve en plus dans ce cas-là. Comment est-ce
effectivement,
que vous trouvez que ça y figurait
On vous accuse de ne pas avoir envoyé
la prise jack,
la prise ou le câble
HDMI
qu'il fallait.
Ou autre.
Qui est-ce qui l'a pas envoyé? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le service client qui n'a pas réceptionné la pièce ou mal réceptionné la pièce.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors c'est vrai que, comme le disait Maxime, il y a quand même une chose, c'est que le marché est extrêmement animé tant sur le mobile, puisque c'était avec l'arrivée de Free Mobile que le marché s'est extrêmement animé, mais également sur l'Internet fixe, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs, à chaque fin de trimestre, pour essayer de doper leur base d'abonnés, se tournent vers des ventes privées cassées, à prix cassé. Et c'est à ce moment-là où il y a beaucoup d'abonnés qui changent d'opérateur à chaque fin de trimestre. Notamment, il y a une une forte saisonnalité. Hein, c'est un peu comme avec les glaces qu'on mange l'été. Bah, sur les box et la téléphonie mobile, c'est un peu la même chose. En fin d'année, sur le dernier trimestre, au moment de Noël, il y a des gens qui soit ont comme cadeau un nouveau téléphone portable avec dans le téléphone un nouveau forfait. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus gros taux de ce qu'on appelle le churn, donc c'est le taux d'attrition. C'est le nombre d'utilisateurs qui vous quittent pour aller chez un concurrent. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a de fortes poussées de portabilité du numéro, fort niveau de renvoi de box. Et à ce moment-là, effectivement, il peut arriver que les opérateurs sont saturés par le turnover un petit peu de ces clients.
Donc vous les plaignez, quoi, en fait, en quelque sorte.
Pas du tout. J'essaie simplement d'expliquer qu'il y a des effets de saisonnalité qui, du coup, à un moment donné, demande à ce qu'il y ait des gens en face qui soient là pour répondre.
Alors, puisqu'on parle de téléphonie mobile et donc de smartphone, un mot sur Apple, une marque dont on parle souvent dans cette émission. Mais Apple est un peu spécialiste, notamment avec ce nouvel iPhone sorti tout récemment. Un certain nombre de pratiques, alors d'emprisonnement, hein, c'est le cas de le dire, de ces usagers, les ventes liées. C'est une marque Apple qu'on adore, mais aussi qu'on hait. C'est toujours la contradiction de la marque à la pomme qui emprisonne, une espèce de cage Apple finalement. Alors il y a d'abord toutes ces applications forcées. Vous achetez un iPhone et vous êtes obligé d'avoir le porte-monnaie, wallet, hein, que vous pouvez même pas, c'est une application que vous ne pouvez pas supprimer. La même chose pour l'application Bourse, l'application Game Center, la fameuse application Maps, donc les cartes Apple dont on a vu qu'elles fonctionnaient très mal par rapport à celles de Google, mais elle est là et vous êtes obligé et condamné de vivre avec. Même chose pour la santé, même chose pour l'application Watch. Tout ça prend de la place sur votre téléphone et vous ne pouvez pas les enlever. Autre problème, c'est les liens quasi automatiques avec, d'une part, iTunes, iCloud et puis Apple Music. C'est-à-dire que vous êtes avec votre téléphone, smartphone, iPhone d'Apple et on vous demande que vos données soient sauvegardées sur iCloud alors que vous pourriez vouloir utiliser un autre cloud. Apple Music, vous pourriez vouloir Spotify ou Deezer, mais on vous le propose avec insistance. Hein, très souvent, dès que vous vous connectez, on vous propose de rejoindre iCloud et Apple Music. Et puis le mini jack qui disparaît, on l'a vu dans ce nouvel iPhone 7, ce qui en soi est un choix. Mais il faut, si on veut écouter avec un casque ou même avec des écouteurs reliés à un fil votre musique sur un smartphone, Apple, il faut un cordon de raccordement. Alors certes, qui est offert, mais on sait bien qu'on a tous plusieurs casques, en tout cas des écouteurs, parfois chez soi, dans sa voiture, etc. Et évidemment, on ne va plus avoir le câble qu'il faut. Et donc, du coup, il va falloir acheter plusieurs câbles. Et on voit bien tous les problèmes, petits problèmes, certes, mais qui embarrassent, énervent très fortement la vie des consommateurs. Une réaction peut-être sur Apple ?
Oui, juste pour dire que historiquement, Apple a toujours, alors ça c'est pas pour prendre la défense de cette marque-là, mais a toujours voulu enlever des choses, des téléphones et des ordinateurs. Ils ont commencé par exemple par le lecteur de disquettes qui avait disparu très vite des premiers ordinateurs.
Ce qui aujourd'hui serait plus très utile. En
voilà, mais ils ont toujours pris un peu quand même un train d'avance.
Donc vous pensez que le Bluetooth finalement va être le moyen d'écouter
C'est probable, parce qu'ils l'ont fait aussi après avec le lecteur de DVD qui était plus accessible sur les ordinateurs, les MacBooks. Il fallait l'acheter en externe, justement parce qu'ils voulaient un ordinateur qui soit beaucoup plus fin, avec moins d'épaisseur, et qu'un lecteur de DVD, en l'occurrence, prenait
oui,
un peu de
la prise
de
jack,
place.
C'est pour gagner un peu de place et qu'il soit plus étanche, puisque désormais l'iPhone 7 est censé être étanche.
Alors souvent, ça part aussi d'une esthétique de design, c'est-à-dire de faire des produits les mieux designés et les moins épais possibles. Après, ça se transforme, et ça, faut pas non plus être dupe, en argument commercial, c'est-à-dire que tous ces petits dérivés qu'on doit acheter en plus, eh ben, ils coûtent très très cher. Les casques coûtent très très cher, les lecteurs de disques, de DVD ou de CD externes coûtent très très cher. Donc ça devient quand même un marché extrêmement important pour Apple. Et en plus, ils le protègent par des brevets. Donc il est très difficile pour des tiers de créer des périphériques autour de l'univers d'Apple sans l'autorisation de la marque.
Donc bref, un beau design, mais sans casque qui fie qu'on peut relier à une prise
ou
de jack.
En payant grosses royalties auprès d'Apple.
Maxime Chepoy.
Oui, alors juste sur Apple, pour dire deux choses. Déjà, il y a une réglementation européenne qui a uniformisé tous les chargeurs vendus en Europe pour les smartphones. Il n'y a que Apple qui n'a pas le bon chargeur et qui oblige tout le monde à
acheter
un chargeur.
Parce que c'est considéré comme une marque de luxe, c'est ça ? L'astuce, dit-on ?
Oui, c'est un peu une cage dorée, c'est vrai, Apple. Et puis l'autre élément, c'est l'étanchéité. C'est surtout un prétexte, puisque Sony a fait 2 ou 3 générations de téléphones étanches sans avoir besoin de...
supprimer le jack.
Exactement.
Autre question est liée à ce dont on vient de parler, puisque c'est souvent via Internet qu'on prend un abonnement en ligne, on signe un contrat et qu'on achète aussi et nombreux achats en ligne. Et ces contrats que l'on signe, je le disais en début d'émission, souvent des contrats qui sont modifiés au jour le jour par les par les sociétés qui les vendent, par les opérateurs, etc. On les clique, c'est souvent, on clique ce contrat, c'est souvent, parfois écrit en anglais, bon, souvent en français, mais ça fait 25 pages, c'est écrit en tout petit caractère et on est obligé de cliquer pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite acheter. Et là, on s'engage à tout un tas de... C'est pas simplement le téléphone qui est illimité, c'est le contrat lui-même qui devient illimité avec tout un tas de problèmes qu'on peut rencontrer. Qui veut réagir sur ce point?
Alors effectivement, normalement, le droit, si on prend la logique du droit, c'est un contrat entre deux parties qui sont à peu près égalitaires. Là, dans les contrats de consommation, on est totalement sur du contrat d'adhésion. Ce qui fait que vous êtes pieds et poings liés face à vos prestataires. Il faut savoir, mais j'ai pas tous les éléments en tête, qu'en ce moment, il y a une grande réflexion sur la réforme du droit de la consommation et notamment sur tous les contrats d'adhésion pour permettre d'avoir une meilleure protection des consommateurs. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé au niveau...
Donc ça, c'est le problème général des conditions, ce qu'on appelle général sur Internet, que l'on signe.
En général, et encore plus sur Internet, puisqu'on a même pas la version, l'outil papier qui permet quand même de jeter un minimum...
Alors parmi les nombreux petits points, par exemple, on peut s'abonner par Internet, par exemple, on y reviendra tout à l'heure à une assurance, mais par contre, on ne peut pas se désabonner. Donc là, il y a le problème, au fond, il n'y a pas d'équité entre la manière dont on s'abonne et la manière dont on se désabonne, qui doit être fait à certaines dates par lettre recommandée, et là, c'est tout un problème, bien sûr.
Oui, ça, c'est une problématique générale, et spécialement auprès des opérateurs français, enfin, des entreprises françaises en général. C'est très facile d'entrer dans un contrat, c'est très difficile de sortir dans un contrat. Typiquement, on a un déséquilibre des moyens de souscription et de résiliation qui est vraiment étonnant. Si vous voulez souscrire n'importe quel contrat, on va vous faciliter la vie. Dès qu'il faudra résilier, il faudra envoyer...
Et quelle serait la solution à ce moment-là sur ce type de problème?
La solution, je pense que ce serait d'établir un principe d'égalité des formes. C'est-à-dire que si vous souscrivez par simple mail sur Internet, vous devez pouvoir résilier par Internet. Si jamais la souscription est plus compliquée, là, on peut tolérer que
la résiliation soit plus compliquée. Donc, il y a par parallélisme des formes de...
Oui, ça, c'est vraiment de la manœuvre dilatoire pour essayer de garder des clients aux dépens du client.
Alors, il y a toute la question des incidents de paiement avec une double pénalité, non seulement du fournisseur d'accès Internet, par exemple, ou de la compagnie de téléphonie mobile, et puis de la banque qui vous refacture. Et donc là, vous commettez une erreur parce qu'un prélèvement a été refusé. Et là, vous êtes doublement sanctionné, par exemple.
Oui, alors ça, effectivement, on peut avoir des systèmes de double facturation parce qu'on pense que le premier acte d'achat n'est pas passé, donc on le refait et à ce moment-là, on est doublement effectivement sanctionné par un prélèvement. Et donc de ce point de vue-là, après, c'est difficile de se faire rembourser son premier prélèvement. Il y a aussi tout simplement des frais d'assurance de temps en temps puisqu'on peut prendre une assurance domicile, par exemple, qui est payé mais qui en réalité n'est pas encaissé par son courtier mais directement par la maison mère. Le courtier vous renvoie un courrier en vous disant je n'ai jamais reçu votre paiement. Il vous demande un justificatif, vous lui envoyez le justificatif, il dit qu'il trouve pas la trace de ce paiement. Vous lui dites forcément puisque c'est la maison mère qui a dû l'encaisser. Et donc à ce moment-là, vous n'êtes pas couvert pendant plusieurs mois. S'il arrive quoi que ce soit à votre domicile, et c'est pour vous. Alors que simplement c'est une erreur entre la maison mère et le courtier. Donc ça aussi, de temps en temps, il y a des flux qui sont pas très bien suivis entre les courtiers d'un côté et les maisons mères, ce que soit notamment dans l'assurance domicile.
Un mot sur tout ce qui concerne tous ces achats en ligne. Je pense par exemple, et ça rejoint la question des loisirs, pas exactement de la culture, encore que on peut acheter des places de spectacle par Internet, mais aussi les voyages, les hôtels. Là se pose un certain nombre de problèmes. D'abord, le fait que Internet a multiplié les outils de type Expedia pour les voyages ou Orbitz, etc., qui permettent d'acheter en ligne très rapidement avec des comparateurs de prix effectivement très très efficaces, qui ont défavorisé fortement les compagnies de type Air France ou American Airlines, donc les compagnies officielles, face aux low cost, qui eux ne proposent des prix n'incluant pas, par exemple, les frais tout simplement de bagages, d'où le fait que leurs tarifs sont particulièrement attractifs. Donc là, on se heurte à quelque chose qui n'a pas été régulé, notamment par l'Union européenne, alors que c'est régulé aux États-Unis, puisque lorsque vous prenez un vol des États-Unis, il y a un minimum de bagages autorisés. Et donc, du coup, les compagnies low cost ne peuvent pas jouer sur Expedia et sur Orbitz ou d'autres sites de ce type des tarifs bas parce qu'ils n'incluent pas tout un tas de choses pourtant vitales. On a généralement un bagage au moins avec soi lorsqu'on voyage.
Alors moi, ça m'était arrivé cet été, alors sans vouloir raconter ma vie, puisque c'est pas forcément intéressant. Mais en l'occurrence, j'ai pris un aller-retour. À l'aller, j'ai pu mettre mon bagage en soute, gratuitement, donc normalement. Au retour, on m'a dit que c'était impossible et qu'il fallait que je paye.
C'était la même compagnie.
C'était la même compagnie. Et on m'a dit que j'avais pas fait attention à ce qui était marqué sur Internet, que effectivement, il y avait probablement eu un petit élément caché ou coché quelque part que je n'avais pas vu. Et donc, c'était à moi de payer la différence sur le bagage.
Léa Lejeune.
Sur les achats en ligne, il y a quand même une chose qui a progressé là cette année, grâce à la loi consommation aussi. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on commandait quelque chose par exemple sur Amazon ou sur un site de e-commerce, qu'on changeait d'avis, mais que le colis avait déjà été expédié ou alors que le produit était défectueux, c'était le début de la galère. C'était le moment où vous devez réempaqueter le colis, faire une demande, appeler, vérifier s'ils l'ont bien reçu, etc. Et là, il y a deux dispositions qui sont passées ces derniers mois, qui sont entrées en application. Un, le délai de rétractation. Quand on a fait un achat en ligne sur n'importe quel site de e-commerce, il est passé de 7 à 14 jours. Ça vous laisse 2 semaines pour réfléchir. Et deux, le remboursement est obligatoire dans ces cas-là sous 14 jours maximum. Donc ça veut dire que pour une fois, on se préoccupe plus du consommateur et finalement, vous n'avez plus à justifier pendant 2 heures par mail ou par téléphone de ce qui ne va pas dans votre appareil. Ce qui compte d'abord, c'est votre droit en tant que consommateur et l'entreprise doit s'y adapter.
Maxime Chipoy.
Oui, juste pour préciser que ce n'était pas forcément la loi consommation qui avait mis ça en place, mais en fait, c'est une directive européenne qui oblige à.
Et que la loi
qui donne
juste
ce droit à rétractation et la loi l'a transposé en droit français.
Un mot peut-être très court, Emmanuel Paquette, sur. Et c'est lié aux achats en ligne, notamment des voyagistes, compagnies de transport. Ce qu'on appelle l'IP tracking, de quoi s'agit-il et est-ce qu'ils n'abusent pas de ce type de technique?
Oui, alors l'IP tracking, on en parle maintenant depuis un peu plus de 3 ans. C'est un dispositif qui permettrait, parce qu'aujourd'hui encore il y a des enquêtes sur quel type d'acteur peut l'utiliser contre le consommateur, qui permet de localiser votre adresse IP, c'est l'adresse que vous donne votre fournisseur d'accès Internet lorsque vous allez et que vous naviguez sur Internet, et qui identifie votre machine. Donc quand vous vous connectez une première fois pour un billet, votre adresse IP est enregistrée par le site que vous visitez, et si vous revenez, eh ben, on voit que vous êtes visiblement très intéressé
par cette offre. Donc, le cas échéant, on vous propose un billet d'avion plus cher.
Voilà, le billet d'avion ou de train peut avoir augmenté entre vos deux visites. La question est de savoir si c'est l'IP qui a été identifié et que du coup, on voit que vous êtes accro et on augmente le prix, ou si la demande réelle est très forte et qu'à ce moment-là, le prix augmente de lui-même, puisque c'est toujours l'offre et la demande. Hein. Si la demande augmente plus vite que l'offre, eh ben, les prix augmentent. Et donc, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment par la CNIL en France, la Commission Nationale Informatique et Liberté, ainsi que la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pour essayer de voir qui utilisait cet IP tracking en France. Ces enquêtes n'ont pas abouti, il n'y a pas eu possibilité aujourd'hui de prouver, de faire la preuve que des acteurs français l'utilisaient. Et une nouvelle enquête a été ouverte cet été pour essayer d'aller un peu plus loin, notamment vis-à-vis d'acteurs étrangers qui, eux, pourraient faire de l'IP tracking, mais qui sont plus difficiles, sur lesquels il est difficile d'enquêter puisqu'ils sont pas, qu'ils n'ont pas de représentants juridiques en France.
Vous êtes en Soft Power sur France Culture, on est le dimanche 25 septembre. On est ensemble jusqu'à 20h, on parle ce soir de consommation et dans la deuxième partie de cette émission, on reviendra sur des questions culturelles, on évoquera les assurances et les frais bancaires. Tout ça juste après une pause musicale qui nous permet d'écouter Clipping.
Tighter cause it ain't nobody dead. Yeah. We who are about to bang them drums. Bang. Beating on a dead body riding shotgun. Talking that shit, bitch, bite your tongue. See that ship over your city, better run. Run. Your war is like a board game. Where he come from, I already bored claiming your gang. Boom, go to gun, boy, on some other shit. Check your soda system, bitch, don't let a motherfucker catch you sleeping at the wrong sun. Son of haters, send him in a orbit. Higher than these motherfuckers claiming is their purpose. Turn and ask your partner why he started acting nervous. Rat. Keep talking, that's lip service. Rats decided it was time to hit the surface. Cats sleeping on it, write them off like cursive. Drown a fucking hater, his experience immersive. Now that he can feel it, call the doctors and the nurses. Oh! What you gonna do about it? Ain't nothing new about it. Should've made the noose a little tighter, cause it ain't nobody dead, just some motherfucking riders. Air him out, let him breathe. Air him out, got the fire. Air him out, wanna see. Air him out, dude. Should've made the noose a little tighter, cause it ain't nobody dead, just some motherfucking riders.
Try to play a killer soft like silk. Soft. Old frail gas, gotta pay for the milk. Lies high off these lows when they step up in the party with it. Got up in AOs like some fucking O and Kylie. So it's whips and chains. That's a game like it was in both. Back when I'm at Kut. Slang with his partners trying to make his fucking name in the traps. All the way from Banjagara to the Kefa Hoochie track. Snatch a Hoochie with a smile, tap in front of back. If somebody try to stop you, tell that decker. Backpack, 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 stack racks.
À l'instant, David Diggs, qui a été récompensé en 2016 d'un Grammy Awards et d'un Tony Award aussi, d'ailleurs, c'était pour son rôle dans Hamilton, une comédie musicale de Broadway qui a connu un succès considérable. Mais David Diggs a, comme on dit, plusieurs cordes à son arc. Il a une autre passion, la musique. Et en juillet, il a donc décidé de quitter la troupe de Hamilton, quitter Broadway, pour se concentrer sur sa carrière musicale. Son groupe Clipping vient de sortir un premier album, donc, intitulé Splendor and Misery, dont on écoutait un extrait intitulé Air Him Out, tendance à rap expérimental.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans Soft Power ce soir, émission consacrée entièrement aux questions de consommation, consommation et protection des consommateurs, notamment avec tous les problèmes qu'ils rencontrent ici ou là, et notamment sur Internet. On est avec Emmanuel Paquette de L'Express, Léa Lejeune de Challenge et Maxime Chipoy, spécialiste des questions de consommation et ancien responsable des études de l'UFC Que Choisir. Alors, deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser à la culture, on évoquera les assurances, services après-vente et puis les frais bancaires. Commençons par la culture, peut-être avec, on a vu récemment un débat qui d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre autour de ce qu'on appelle le géoblocking, Emmanuel Paquette, et les ayants droit, notamment les sociétés de type SACEM, SACD, qui protègent qui les musiciens, qui les auteurs de télévision ou les cinéastes sont assez mécontentes de ce type de dispositif et de ce type de réforme, même si les consommateurs, eux, le souhaiteraient éventuellement. Quel est l'enjeu du débat ?
L'enjeu du débat sur le géoblocking, on l'a déjà un petit peu abordé dans des précédentes émissions, mais c'est simplement de dire aujourd'hui, si vous êtes abonné à un service du type Netflix, Canal Play en France,
Spotify
ou Deezer par exemple, et que vous partez en vacances à l'étranger, alors que vous payez ce service, vous n'y avez plus accès parce que vous avez quitté le territoire français. Donc là aussi, c'est votre adresse internet qui fait office de garde-fou, et quand vous êtes à l'étranger, on bloque simplement l'accès à ce catalogue, puisqu'en fait, dans le pays dans lequel vous résidez, soit le service n'existe pas, soit il existe, mais les droits qui ont été payés sont pour les habitants de ce pays, mais pas pour les visiteurs. Donc la Commission européenne aimerait lever ce petit problème.
Au moins au niveau de l'Union européenne.
Au niveau de l'Union européenne. Ce qui revient aussi à ce qu'on appelle la territorialité des droits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans chaque pays, vous avez des droits qui sont associés à la musique, à la vidéo, et donc aujourd'hui, un acteur comme Canal, par exemple, achète les droits pour la France, et puis pour d'autres pays s'il le souhaite. Donc il faut dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir toute la territorialité des droits. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça pourrait faciliter des modèles économiques du type de ceux de Netflix ou ceux d'Amazon, par exemple, qui proposent donc des abonnements, des offres de vidéos à la demande par abonnement, parce que ces gens-là achètent les droits d'un coup sur plusieurs centaines de pays, et du coup, ça leur poserait pas de problème de lever le géoblocking.
Donc là, d'une certaine manière, les droits des consommateurs européens, et notamment français, sont à l'encontre des droits des artistes européens ou français. Donc on voit bien la tension que ça peut susciter.
Oui, ça pourrait créer effectivement des distorsions de concurrence avec des acteurs locaux.
Alors, autre toujours en matière culturelle, et de ce point de vue, Canal+ est concerné par le géoblocking. On voit bien Canal+ avec des offres d'abonnement. Maxime Chipoy, c'est un récidiviste de l'emprisonnement du client, on peut dire, Canal+.
Oui, en effet, Canal+, depuis des années, est le spécialiste pour bloquer ses clients, pour les empêcher de partir, puisque les associations de consommateurs sont très
vigilantes.
Vigilante et très fâchée contre Canal+, puisque par le passé, quand vous vouliez résilier votre contrat chez Canal+, il fallait regarder dans le magazine Canal+, une fois par an, les conditions dans lesquelles...
Il ne fallait pas avoir oublié son magazine.
Pour résilier, voilà, il ne fallait pas l'avoir oublié et bien le regarder. Donc le régulateur est quand même passé par là, le législateur même, puisque dans la loi consommation...
De 2014, une
disposition explicitement adressée aux pratiques de Canal+, pour les obliger à informer de manière nominative au moins une fois par an leurs clients du fait qu'il était possible de résilier leur abonnement, ce qui est quand même assez fort de café. Et En plus, il faut savoir que ça n'a pas empêché derrière ça Canal+ d'encore tenter des dispositifs pour nuire un peu à l'information de ses clients, puisqu'ils ont eu tendance à diviser l'information en deux parties, à mettre le début de l'information au début du courrier et la fin de l'information utile à la fin du courrier.
Après, il faut faire simple, il faut tout recomposer pour arriver à se désabonner. Autre sur ce sujet, Léa Lejeune.
Il y a un autre professionnel des conditions générales cachées, c'est MK2 UGC.
Alors, donc là, c'est les cartes illimitées de cinéma.
Voilà, les cartes illimitées de cinéma. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce service et déjà essayé de vous abonner. Alors, j'ai fait le test aujourd'hui, je suis allée sur la page internet et il est écrit que pour se désabonner, il faut appeler un numéro et il n'y a aucun détail sur les conditions. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que en 2011, j'avais été frappée par un témoignage sur Rue 89 d'une jeune femme qui racontait son parcours du combattant pour se séparer de sa carte UGC MK2. Elle s'était fait voler son sac à main et elle avait voulu abandonner son abonnement et on lui avait demandé d'abord un numéro d'abonné, puis d'envoyer par courrier une explication de sa demande et sa carte UGC MK2. Sauf que celui étant fait voler, elle ne pouvait pas y arriver. Donc, elle a essayé tous les systèmes et puis finalement, elle a racheté une carte d'abonné pour ensuite envoyer un courrier en expliquant tout ça. Et elle a eu un préavis de 2 mois avant de pouvoir être vraiment désabonnée. Et je pense que là, en termes de service des consommateurs, on est vraiment très loin de ce qu'elle cherche.
On peut citer aussi Mediapart, hein, même si ce sont nos amis, on les reçoit parfois dans cette émission. Quand vous voulez vous désabonner Mediapart, eh bien, il faut souvent chercher, et c'est très difficile de trouver l'endroit où vous allez pouvoir vous désabonner. Alors, on comprend que ce ne soit pas à la une tous les jours en disant désabonnez-vous, mais en même temps, ça devrait être possible assez simplement de trouver la bonne adresse URL ou la bonne page pour se désabonner. Un mot sur les assurances et les services après-vente. Il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler les assurances un peu bidons, hein, j'ose le mot, des smartphones, des billets d'avion ou des billets de train achetés sur Internet. Par exemple, pour les iPhones, les clauses d'exclusion sont passées sous silence lorsqu'on les signe, lorsqu'on prend cette assurance. Mais en réalité, on s'aperçoit que le téléphone est protégé souvent ni de la casse, ni des pertes, ni du vol, sauf si c'est à l'arraché, entre guillemets, ce qui conduit souvent les jeunes, par exemple, à faire des fausses déclarations à la police. On voit bien tous les problèmes que ça pose. On a aussi des assurances pour de voyage, qui protègent au fond de tout, sauf par des clauses exorbitantes de tout ce qui vous arrive en voyage, avec les difficultés. On peut pas engager de frais avant d'avoir obtenu un opérateur qui répond pas forcément. Encore une fois, c'est parfois pas tout à fait en français. J'ai testé ce service et je peux vous dire, on vous répond en Roumanie avec quelqu'un qui a quelques mots de français et vous essayez d'expliquer la situation et ça prend des heures. En plus, il faut payer évidemment ces appels téléphoniques depuis l'étranger. Sur tous ces sujets, Léa Lejeune.
Alors, la première chose, c'est une réponse de la part du privé. Je sais que Bouygues Télécom avait été beaucoup critiqué pour une de ses assurances téléphoniques qu'il y avait, qui demandait un certain nombre de conditions, justement le vol avec violence dont vous parliez tout à l'heure et qui conduisait à des fausses déclarations. Maintenant, ils ont complètement changé de système d'assurance, ils ont internalisé ça et ils ont un système d'assurance où on repaye 90€ à chaque vol, perte, peu importe ce qui arrive à votre téléphone, vous n'avez plus besoin de rien déclarer. Et là, c'est un bon exemple de comment le privé a répondu aux problèmes que les consommateurs vivaient au quotidien. Sur les billets d'avion, ce dont vous parliez, il y a un principe qui a été appliqué par la loi consommation, justement, c'est que jusqu'à présent, on vous proposait, par exemple, quand vous achetiez un billet sur Opodo, Liligo et ce genre de service, Expedia, on vous proposait des assurances supplémentaires avec une manière de raconter un message qui faisait assez peur sur qu'est-ce qui va arriver à vos voyages.
C'est parfois pré-cliqué si vous faisiez
pas
attention.
Voilà, qui était pré-coché. En fait, ces assurances-là, donc déjà aujourd'hui, ne sont plus autorisées. En tout cas, elles sont autorisées, mais vous pouvez vous plaindre contre ces assurances et les résilier. Ils appellent ça le système de surassurance. C'est que vous êtes déjà assuré soit par votre santé, soit par votre banque sur ces
cartes de crédit, etc.
Voilà, ouais. Exactement, sur ces services-là. Et par ailleurs, pré-coché, ben, c'est plus autorisé vis-à-vis
alors ça pose plus globalement ce sujet, celui des multi-assurances, puisque en fait, on vous demande de vous réassurer pour tout un tas de choses, alors que vous êtes déjà assuré par d'autres, par vos moyens de paiement ou par des assurances à domicile, etc., par votre banque. Et on voit bien la limite de ces questions. Autre sujet connecté, puisque tout ça se termine souvent sur les comptes bancaires, ce sont les frais bancaires. On sort un peu du numérique, mais pas totalement, parce que ça peut avoir un lien avec la téléphonie mobile ou les fournisseurs d'accès à Internet. On a tout le problème des prélèvements automatisés des opérations, les surfacturations à l'étranger, les offres multiples sur ce sujet. Une réaction, Emmanuel Paquette?
Oui, alors il se trouve que ça s'est aussi beaucoup développé avec le numérique, justement, ce dont on parlait précédemment, puisque aujourd'hui, des acteurs comme Amazon, Uber, préenregistrent votre carte de crédit et vous demandent simplement, lorsque vous réalisez un nouvel achat, de cliquer. Enfin, le système One Click, par exemple, chez Amazon, fait qu'une fois que vos coordonnées sont enregistrées, vous n'avez plus qu'à cliquer, à vous identifier, à cliquer, et c'est automatiquement débité. Alors il se trouve que ça, ça contrevient au droit en France. La CNIL l'a dit à plusieurs reprises, donc la Commission nationale informatique et liberté. Il se trouve que quand vous donnez votre numéro de carte bancaire, vous devriez à chaque fois, la personne qui l'utilise, enfin l'offre de service qui l'utilise, devrait demander votre consentement et vous devriez renseigner à nouveau les champs de votre
numéro. Si c'est un achat à l'acte, notamment.
Si c'est un achat
à
l'acte.
Abonnement.
Exactement. Et aujourd'hui, donc, contreviennent beaucoup d'acteurs de l'Internet, comme je le disais, Uber et Amazon, ne respectent absolument plus ça, puisqu'ils ont leur base de données avec votre carte de crédit et vous avez juste à cliquer pour...
Alors, on peut aussi dire que c'est extrêmement facile. S'il fallait sur Uber, chaque fois qu'on prend un Uber ou un taxi, d'ailleurs, puisque c'est valable aussi sans doute pour les taxis bleus ou les taxis G7, on voit bien que s'il faut rentrer son numéro de carte bleue à chaque fois, c'est complexe. Donc là, on voit bien que les consommateurs veulent la facilité, mais ils veulent aussi la protection, et c'est là toute l'ambiguïté sur lesquelles les entreprises jouent.
La vraie question, c'est demain, s'il y a un piratage de ces services-là, ces cartes bancaires vont se retrouver dans la nature. C'est déjà arrivé à Sony, par exemple, sur le PlayStation Store. Ça leur a coûté déjà extrêmement cher. Et normalement, conserver des bases de cartes bancaires comme ça doivent être déclarées auprès de la Commission nationale informatique et liberté, puisque c'est considéré comme des informations dites privées, donc qui qualifient un individu, et que le risque de piratage, aujourd'hui, n'est pas anodin et a tendance à se multiplier, puisque des assureurs proposent aujourd'hui à des sociétés, et même bientôt à des particuliers, de s'assurer contre des vols de données personnelles.
Alors même que les cartes bancaires sont, en tout cas Visa, etc., sont protégées dans les cas d'utilisation frauduleuse. Ouais. Donc c'est une assurance de plus, peut-être un peu inutile, Léa Lejeune.
C'est aussi aux start-up et aux acteurs de l'innovation, je pense, de développer un système et de répondre à ces problématiques-là. Par exemple, il y a certaines start-up aux États-Unis qui ont inventé un système où on vous demande juste de vérifier votre empreinte digitale. Donc vous n'avez pas tout à retaper. L'expérience utilisateur est beaucoup plus intéressante et ça se réalise en un clic.
Maxime Chipoy.
Oui, juste pour préciser, il faut savoir que les enjeux économiques sont énormes sur la validation des paiements, puisque tous les acteurs, tous les géants du net savent notamment que plus on rajoute de pages entre le moment où on a voulu faire l'achat et le moment où l'achat est réalisé, plus en gros le consommateur se met à réfléchir et se dit que finalement il n'a peut-être pas tant besoin que ça. Et s'arrête de valider et donc ne paye pas. Donc il y a vraiment un enjeu. Plus ça sera rapide, mieux ça sera pour les acteurs économiques, parfois
et
au détriment
pas
des consommateurs.
Pour les consommateurs. Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h. On parle consommation dans la troisième partie de cette émission. On terminera avec la question des accès et notamment des facturations sur Internet de type micro-paiement et Internet Plus, les spams, les robocalls, les ping calls, et puis enfin les actions de groupe ou clash action qui sont une solution peut-être, partielle certes, mais une solution malgré tout à tous ces problèmes juste après Justice. À l'instant, Randy, un titre extrait du troisième album du groupe français Justice Woman, qui paraîtra le 18 novembre prochain sur le label Headbanger. Pour écouter cette émission ou ne pas manquer les prochaines, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit bien sûr, à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes. On est ensemble jusqu'à 20h, on parle de consommation ce soir avec Emmanuel Paquet de L'Express, Léa Lejeune de Challenge et Maxime Chipoy, ancien responsable des études de l'UFC Que Choisir, spécialiste des questions de consommation. Alors on observe sur internet notamment que des choses se passent, qu'on n'est pas toujours certain de bien pouvoir maîtriser. Par exemple, on observe une vidéo qui sur Facebook buzz énormément et il est dit qu'elle a été vue par des centaines de milliers de gens et il faut la voir tout de suite parce qu'elle est très importante. Et c'est d'ailleurs souvent basé sur un vrai extrait de télévision qui a eu lieu. Vous vous mettez à regarder la vidéo, d'ailleurs elle dure assez longtemps, parfois 5-6 minutes, il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est une vidéo que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube ou ailleurs, sauf que vous ne le savez pas, mais pendant le temps que vous allez la regarder, elle est payante et elle vous est facturée par un service de micro-paiement qui s'appelle Internet Plus, qui a été développé par les différents opérateurs de téléphonie mobile et surtout des fournisseurs d'accès à Internet. Ça peut être soit sur votre mobile, soit sur votre ordinateur, Maxime Chipoy.
Oui, effectivement, Internet Plus, ça fait partie des petits problèmes quotidiens des gens, puisqu'ils se rendent compte à la fin du mois qu'ils ont une facture beaucoup plus importante que leur seul forfait mobile. Et Internet Plus, en fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est un manque d'information, puisque quand on va cliquer sur cette vidéo, on ne sait pas forcément qu'elle est payante.
C'est écrit, mais c'est généralement très petit et on ne le voit pas.
Effectivement. En plus, en principe, c'est plutôt des vidéos racoleuses ou des choses comme ça, donc on ne prend pas le temps de regarder. C'est la combinaison aussi d'une absence totale de consentement au paiement, puisque à aucun moment on vous demande si vous voulez vraiment payer ça. Et au final, ça fait
Et puis c'est aussi l'opérateur de téléphonie mobile ou le fournisseur d'accès Internet qui a activé par défaut un service qui est Internet Plus.
Et ça, c'est une tendance assez fréquente dans la consommation en ce moment, c'est que on a tendance à vous rajouter des services ou pseudo-services qui sont plus ou moins payants et sans vous informer ou sans même vous demander ce que vous en pensez.
Et alors ça, c'est le vrai chez Orange, c'est vrai chez Bouygues. Alors il y a Free qui pour l'instant n'a pas activé par défaut ce service, donc pour une fois on peut les saluer, ils sont pris en défaut sur d'autres aspects, notamment le service après-vente, mais sur ça ils ont avancé. Alors il y a aussi, et c'est un peu lié, c'est pas exactement la même chose, mais toute cette question de ce qu'on pourrait appeler le sujet du spam téléphonique, qui est une véritable plaie, notamment pour les personnes âgées. Alors ça peut prendre la forme soit d'appels automatisés téléphoniques, c'est ce qu'on appelle le robocall, ou alors ça peut prendre la forme de ping call. Là, en l'occurrence, c'est on vous demande, vous avez un appel en absence, on vous demande de rappeler. Si vous le faites, vous payez des frais forfaitaires de 3, 4 euros, etc. Maxime Chipoy.
Oui, effectivement, c'est une tendance qui monte vraiment très fort ces derniers mois, avec des appels qui sont faits de manière automatique et qui visent vraiment le plus grand nombre. Et sur le lot, vous avez toujours des gens qui vont essayer de rappeler le numéro en pensant que c'est un vrai correspondant qui les a appelés et sans le savoir, ils vont devoir payer 3, 4, 5 euros qui vont se retrouver à la fin du mois dans leur facture.
Parfois, c'est extrêmement pervers. Vous avez un appel, une dame vous dit votre paquet est bien arrivé, merci de rappeler ce numéro. Et en fait, vous n'avez jamais commandé de paquet. Et si vous rappelez le numéro, il est surfacturé. Ça étonne Emmanuel Paquet, mais
non,
ça m'est arrivé. Voilà. Non, ça vous arrive à vous aussi. Voilà. Et en particulier, ça pose le problème du harcèlement des retraités, Maxime Chipoy.
Oui, effectivement.
Parce qu'ils sont plus vulnérables souvent et puis plus souvent à domicile.
Ouais, là, effectivement, c'est souvent les personnes âgées qui sont les plus touchées puisqu'elles sont plus souvent à domicile. Donc, très souvent, ça touche les téléphones fixes en plus des mobiles. Donc, ils ont deux fois plus de raisons d'être touchées.
Elle veut être polie, donc elle répond gentiment à la personne qui appelle.
Voilà, et puis, il peut y avoir des pratiques extrêmement agressives ou alors des usurpations d'identité. C'est pas rare de voir des gens qui appellent, soi-disant, au nom d'EDF pour vendre des panneaux photovoltaïques, voire même dire aux personnes âgées qu'il est obligatoire de faire poser des panneaux photovoltaïques. Et puis, la personne âgée derrière, qui peut être plus ou moins crédule ou plus ou moins avoir plus ou moins de problèmes cognitifs, derrière va se laisser embrigader dans des histoires qui vont lui coûter
parfois
plusieurs milliers d'euros.
Des panneaux photovoltaïques par la poste.
Exactement, pas tout à fait. Elle va se les faire installer, parfois mal installer, et elle va débourser vraiment très cher pour un produit qui n'est pas forcément celui qu'elle voulait.
Et pas nécessaire. Exactement. Léa Lejeune, sur ces sujets, ça pose la question, comment est-ce qu'on lutte contre ce démarchage téléphonique?
Alors, je ne sais pas exactement comment on peut lutter contre ce démarchage téléphonique. Par contre, on peut envoyer certaines dispositions de la loi Hamon permettent de bloquer ces services-là.
Alors là, c'est le service sur Internet. Bloctel, notamment. Là, en l'occurrence, alors c'est une adresse facile à trouver, www.bloctel.gouv.fr. C'est un site du gouvernement qui a été lancé et qui permet de rentrer ses numéros de portable et de fixe. Et normalement, au bout de quelques semaines, on est censé ne plus recevoir d'appels, et si tant est qu'on en reçoive, les sociétés qui abusent de ces procédés sont pénalisées. Le problème, d'après les premières analyses qui ont été faites de ce service Bloctel, qui part d'un très bon projet positif et qui part d'un bon sentiment, c'est que ces sociétés sont souvent des sociétés hébergées à Chypre ou dans d'autres pays. Elles changent très très souvent de dénomination, d'adresse sociale, et en réalité, elles proposent un autre numéro, elles ont un autre numéro, elles continuent allègrement, et la loi et les services Bloctel n'arrivent pas finalement à suivre, et les juridictions non plus, quand elles sont attaquées en justice, à suivre pour les arrêter. Maxime Chipoy.
Oui, effectivement, là-dessus, une des problématiques en Europe, c'est que la Commission européenne a pour volonté de créer un grand marché européen, mais derrière, la protection du consommateur ne suit pas toujours, puisque le droit des consommateurs, il est encore très largement national. Les autorités de contrôle ont un pouvoir national, donc après, c'est très facile pour des gens mal intentionnés d'aller se balader dans les différents pays européens, voire même encore plus loin, puisque aujourd'hui, avec les moyens de l'informatique, on peut appeler de l'autre bout du monde sans être inquiété. Et là, c'est très facile d'arnaquer les gens.
Léa Lejeune.
Mais même dans les frontières françaises, finalement, la seule obligation qu'ont ces sociétés, c'est de consulter régulièrement cette nouvelle liste rouge à un autre genre. Donc finalement, sur le suivi, on ne sait pas vraiment si ça va donner des résultats, le fait de consulter une fois.
C'est aussi tout le problème des SMS que l'on reçoit. Alors, on est censé dire stop lorsqu'on ne les veut plus, mais en réalité, ils continuent à arriver, on n'a aucun moyen de les bloquer. Enfin, on a tout un tas de problèmes qui se posent sur ces sujets. Alors pour terminer cette émission, on va parler maintenant des actions de groupe, ce qu'on appelle les class actions en anglais. Parce que là, au fond, c'était, en tout cas, beaucoup le disaient, une solution pour résoudre une partie des problèmes dont on a parlé ce soir. Je vous propose pour commencer d'écouter Benoît Hamon qui défendait sa loi.
L'action de groupe, ça va permettre à un consommateur, sans qu'il n'ait rien à faire, de pouvoir être réparé du préjudice qu'il a subi. Je prends un exemple. Quand il y a des ententes anticoncurrentielles, des grands groupes qui s'entendent sur votre dos, vous payez 20% du prix de plus que le marché. 20% de plus que le prix normal. Si ces deux grands groupes ou trois grands groupes sont attrapés les mains dans le pot de confiture, ils payent une amende à l'État, ça peut être dans des centaines de millions d'euros. Est-ce que vous qui avez payé pendant 3 ans ou 4 ans 20% de plus que le prix normal, que le prix que vous auriez dû payer, vous êtes indemnisé? Non. Mais grâce à l'action de groupe, une association de consommateurs, sans que aucun d'entre nous n'ait à bouger, va déclencher une action, le juge fixe le montant de la réparation et vous obtenez enfin réparation du préjudice subi.
Benoît Hamon, alors ministre de la Consommation, qui défendait sa loi dans « On n'est pas couché » sur France 2, c'était le 8 février 2014. Action de groupe, class action, Léa Lejeune.
C'est donc une solution inspirée des États-Unis, qui existe depuis longtemps là-bas, qui permet à des groupes de personnes de se constituer en collectif et faire des réclamations contre des entreprises privées, contre l'État. Et souvent, c'est le cas aux États-Unis, de récupérer de sommes très rondelettes. Alors en France, on a été un petit peu plus modeste. Les class actions n'existent que pour la vente de biens, les fournitures, les services et les pratiques anticoncurrentielles. Pas pour la santé, comme on peut le trouver aux États-Unis, et pas dans les entreprises pour les conditions sociales des travailleurs. Et pour le faire en France, il faut aller voir une association agréée. À l'heure actuelle, il y en a 16 qui peuvent réagir et qui vont constituer des dossiers. Depuis l'application en 2014, il y a eu 6 actions collectives qui ont été lancées. Et pour l'instant, il n'y en a encore aucune qui a donné des résultats favorables pour les plaignants.
Voilà la difficulté incroyable, Maxime Chipoy, de lois de ce type qui sont lentes, des juridictions très lentes face à des problèmes qui concernent des millions de Français et où on n'arrive pas à résoudre le problème finalement.
Alors, l'action de groupe, c'est quand même quelque chose qui est censé faciliter la vie des gens puisque par le passé, vous n'alliez pas attaquer quelqu'un pour 20 euros.
Oui,
fournisseur pour 20 euros. Aujourd'hui, c'est possible avec l'action de groupe, mais après, on reste dans les voies de justice traditionnelles. C'est-à-dire que y a une première instruction, un premier jugement, éventuellement un appel, éventuellement une cassation. Si les montants sont importants, ça peut vraiment jouer. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre 6, 7, 8 ans pour avoir un résultat. Enfin, il n'y a pas de miracle non plus sur les procédures judiciaires.
Emmanuel Paquette.
Oui, et puis ça a mis, c'était un serpent de mer pendant longtemps en France. Hein,
oui, Jacques Chirac l'avait proposé, Nicolas Sarkozy l'avait proposé.
Les associations de consommateurs le poussent depuis plusieurs années. Et le contre-argument qui était souvent avancé, c'était les dérives potentielles de ce type de procédure juridique, à savoir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble et qui attaquent pour un oui ou pour un non des grandes sociétés. Donc il peut y avoir des abus. Donc c'est sur ce fondement-là que les opposants commençaient à dire que ça pouvait gêner les entreprises françaises ou des entreprises même étrangères ou européennes dans leur déploiement commercial et même être utilisées par des concurrents ou cofinancées par des concurrents, puisqu'on a vu aux États-Unis des class actions qui en réalité étaient financées par des concurrents et portées par des consommateurs, mais en réalité les consommateurs n'étaient que des paravents.
Maxime Chipoy, pour terminer.
Oui, pour dire là-dessus que les class action françaises ne sont pas du tout les class action américaines, puisque déjà, ce n'est pas les avocats qui commencent la procédure, c'est les associations de consommateurs. Et l'autre élément extrêmement important qui évite les dérives à l'américaine, c'est que on ne rembourse que ce qui a été perdu par le consommateur. Il n'y a pas de dommages et intérêts. Et donc, on ne sera jamais sur les milliards de compensations pour une frite, pour des frites malsaines au McDo, quelque chose comme ça.
Léa Lejeune.
Alors, il y a un avocat qui a justement pris le contre-pied de ce que vous dites. Un avocat qui vient de fonder une start-up qui s'appelle MySmartCab et qui, en fait, propose aux gens de s'inscrire sur Internet pour constituer une sorte de groupe. Mais alors du coup, il ne passe pas par l'action collective. Il essaye en fait de regrouper ses clients pour être un peu plus fort pour aller au tribunal. Alors là, peut-être qu'avec des systèmes comme ça, on peut retrouver les dérives.
Il y a enfin une dernière solution, et c'est souvent ce que vous choisissez, hein, vous, Emmanuel Paquette, ou que les consommateurs choisissent. Et quand ils sont très furieux, eh bien, ils mettent sur Twitter, sur Facebook, ou alors ils lancent une pétition sur change.org et ils critiquent très fortement qui Orange, Air France, tel Free ou SFR. Et là, on voit que souvent, les services commerciaux réagissent parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise du mal d'eux sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois le meilleur moyen pour être remboursé ou trouver une solution. On voit quand même les nombreux problèmes que tout ça pose. Et ça renvoie à la question, vous l'avez dit, on a libéralisé l'économie, mais sans les régulations. Même, on a voulu être les États-Unis, mais aux États-Unis, ces régulations existent. Et souvent, on les a pas créées en France ou en Europe. On a ouvert les frontières, mais on n'a pas protégé les consommateurs de ces ouvertures de frontières. Peut-être c'est surtout ça qu'il faudra réfléchir. En tout cas, merci infiniment d'avoir été ce soir dans Soft Power. Merci à Maxime Chipoy, spécialiste des questions de consommation, ancien responsable des études de l'UFC Que Choisir. Merci Emmanuel Paquette de L'Express, Léa Lejeune de Challenge. On se retrouve dimanche prochain pour un prochain Soft Power. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou vous abonner à notre podcast Soft Power sur le site franceculture.fr ou sur iTunes, justement. Dans un instant, il sera 20h, vous allez retrouver Secret Professionnel avec Charles Danzig. Bonne soirée à tous, à l'écoute de notre chaîne sur France Culture.